Non parlerò in modo particolare di Madrid, farò alcune riflessioni sulle presentazioni che abbiamo sentito oggi. Vorrei semplicemente sottolineare alcuni punti che ho rilevato in questo.
Jenny Risaliti has conclusions. One question: wouldn't be better to go into a European direction regarding the single emergency number 112 instead of putting efforts in the 118 improvement? He also told us about a new treaty regarding terrorism that we will have to face from now in the following years. And about Madrid, I just have one question: how many nationalities, different nationalities, were represented amongst the victims? Does anybody know? No? 12. And regarding to my knowledge, I think that Spanish is only spoken in Spain, within Europe. So they had to face a multilingualism problem. And also because of the scale of the disaster, they had to face the interoperability problem between the emergency services. And regarding the presentation of mainly ladies from the UK and USA, there is something to say, is that UK and USA respond to a single emergency number, 911 for the USA and 999 for UK. That emergency services provide localization of the caller, that they also provide multilingualism coverage in by British Telecom in the UK and by a single center in USA provided by Lucent Technologies, I think, and you're able to make the difference between the Spanish accent of Cuba and this one from Puerto Rico. And they provide interoperability between emergency services. Four components that will save time and life. That's all I wanted to say. Thank you.
Chers collègues, vous êtes très fatigués. Je vais être très court. Premièrement, en France, le système SAMU permet une organisation de trois niveaux pour les catastrophes. Un niveau national, fédéral, comme disent les États-Unis, à Rome ou à Paris. C'est le gouvernement, ministre de la Santé et le SAMU de Paris qui coordonnent le système au niveau national. Au niveau régional, c'est les grandes régions françaises qui sont organisées pour les catastrophes. Il y a quatre régions en France. Nous avons supprimé les plans des hôpitaux et les plans départementaux. Maintenant, les plans sont de grandes régions, la Toscane, etc. C'est pour des raisons de défense nationale, pour des raisons de défense militaire. Parce que les catastrophes ne concernent plus un hôpital ni une petite région. Nous pensons que les plans de catastrophe maintenant doivent être de toute une région. Donc, les plans blancs français, vous pouvez les avoir dans la disquette que j'ai donnée ici à votre organisateur. Comment on fait la suite là? Est-ce que tu peux m'avancer les machines? Deuxième chose, le système français est très centralisé. C'est facile à faire en France. Donc, on ne peut pas du tout comparer avec les États-Unis, où chaque État, chaque ville a une organisation. Ici, c'est une organisation intégrée nationale. Même les départements qui se trouvent dans le continent américain, c'est-à-dire dans les Caraïbes, ont une organisation et la France les aiderait même par avion, si c'est nécessaire. Donc je vous conseille de lire et d'adapter les plans blancs à votre réalité. La réalité en cas de catastrophe pour vous est différente, parce que vous êtes un pays décentralisé, comme l'Espagne. Et ça, c'est plus difficile. Nous pensons que Paris ne peut pas supporter une grande catastrophe. Il faut faire sur toute la France. Si nous avons 50 brûlés à Paris, ils iront sur toute la France, sur la Belgique, sur l'Espagne, et peut-être sur l'Italie. Parce que la France ne pourra pas absorber 50 brûlés à cette heure-ci. Donc, vous voyez que le système français est très adaptable, alors que le système décentralisé que vous avez est très vulnérable. Attention. La démocratie, c'est bien, la décentralisation, c'est bien, mais en cas de désastre, il faut avoir une organisation nationale et même à l'avenir européenne. S'il y a 50 brûlés à Rome ou ici à Florence, vous ne pourrez pas les prendre en charge. Il faudra les répartir sur l'Europe. Donc vous voyez qu'à l'avenir, il faut que les Européens fassent un système intégré au niveau européen pour les grandes catastrophes. Deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes en train de changer la protection civile française. La protection civile a des très beaux plans, mais c'est des plans purement théoriques. La santé publique, celle qui travaille tous les jours, c'est celle qui fera mieux le travail en cas de désastre. Donc, l'État a compris que nous allons avoir, nous avons déjà, un plan blanc national avec du matériel, même pour les cas très très graves. Dans 12 points de France, il y a du matériel et il y a du personnel qui peut intervenir sur toute la France. En Espagne, c'est pas possible. Je connais. Parce que les régions sont autonomes. Deuxième problème qui est intéressant pour vous et pour l'avenir et pour la démocratisation, pour l'organisation en cas de catastrophe sur le plan sanitaire, c'est la décentralisation au niveau de la municipalité. Si vous faites comme les Brésiliens, une décentralisation complète de la santé, c'est-à-dire au niveau municipal. La vulnérabilité en cas de catastrophe sera encore plus grande, parce que la municipalité de Madrid ou de Paris ne peut pas lutter contre une catastrophe. Donc, faites attention pour les plans futurs que vous allez organiser à ce problème. Vous avez vu à Madrid, quand vous regardez les photos d'un désastre, ce qui se passe, on voit l'organisation. Moi, je sais analyser par une photo comment ça marche. À Madrid, il y avait 4 systèmes sur place, concurrentiels. Ils ont très bien travaillé, ce n'est pas une critique sur le travail. Médicalement, c'était bien. Mais l'organisation est très vulnérable. 4 systèmes. Donc attention, aux modèles étrangers. Prenez les modèles étrangers et ne faites pas les mêmes erreurs. Je ne vous parle pas de Paris, parce qu'à Paris, il y a de très très gros risques aujourd'hui. Il y a un risque bactériologique, virologique, chimique, radiologique et d'explosion dans le métro, dans les aéroports. Donc, les hôpitaux de Paris se sont bien préparés. Et j'invite les superviseurs, les capos d'infirmerie, à venir voir leurs collègues français sur l'organisation logistique du plan blanc. C'est une partie très, très bonne du système français. Par contre, il ne faut pas copier Paris. Paris, c'est comme Rome. C'est trop compliqué. Il vaut mieux aller voir Nice, Grenoble, Lyon, les grandes capitales de la périphérie. Donc, si vous venez en France, j'organiserai votre contact avec vos collègues des SAMU français. Dernière chose que je voudrais vous dire, et je m'excuse auprès des traducteurs parce que c'est des concepts un peu théoriques, difficiles, c'est sur tous les cours que vous avez, toutes les présentations que vous avez eues avant. Il y a des biais méthodologiques, spedio. C'est-à-dire, dans toutes vos études, vous avez... Vous ne pouvez pas analyser quelque chose en fermant les yeux. Premier problème. C'est le problème du triage, comme vous appelez ça le triage. Le triage, vous faites une erreur conceptuelle. Je préfère classification, sorting, comme disent les Américains. C'est établir les priorités, comme vous l'avez dit. Priorité, ça veut dire quoi? C'est une priorité sociale. Attention, si vous comparez plusieurs urgences, rappelez-vous qu'il y a un facteur tabou que vous ne voyez pas et qui est pourtant très important. Il y a la gravité, il y a le temps, il y a la médecine, les soins, mais il y a un autre facteur. Le quatrième facteur s'appelle la valence sociale, social strain. Lorsque vous n'avez plus d'ambulance et qu'il faut envoyer une ambulance, à qui vous allez l'envoyer? Plus qu'une. Au plus jeune, à la plus belle. Au plus riche et à celui qui crie le plus. Ceci est très puissant lors de la classification. Donc il ne faut pas dire ça n'existe pas. Il faut l'analyser dans le sorting, dans le triage, dans la classification, tant au niveau du téléphone, au SAMU, au niveau du service d'urgence de l'hôpital, que en cas de désastre. Ceci est très dangereux sur le plan éthique, et pourtant ça existe. Alors ne cachez pas les yeux, analysez-le, et appliquez des règles éthiques. Les règles éthiques, vous les avez dans la déclaration de Lisbonne, sur l'éthique de la classification des urgences, qui date des années 1990. Autre biais, le biais du tabou de la mort. Vous avez deux syndromes. L'un, c'est l'arrêt cardiaque. L'autre, c'est la mort. Ils ont les mêmes signes. Donc, vous voyez que ça dépend de la décision de celui qui est là, que ce soit au téléphone, ou que ce soit dans l'unité mobile, ou même à l'hôpital. Rappelez-vous que le traitement du véritable arrêt cardiaque, c'est la réanimation cardio-pulmonaire. Sauf que je ne veux plus entendre parler du mot réanimation. Nous ne réanimons pas. Nous faisons des soins. Le traitement de la mort, ce n'est pas la RCP. C'est le lutto. Et très bien, les dernières interventions. Le lutto doit commencer déjà au téléphone, dans l'outil mobile. Donc le lutto, c'est le traitement social de la mort. Et si vous ne faites pas le lutto, lutto c'est, comment ils disent pour eux, mourning. Donc attention, je crois que dans les prochaines années, on va changer complètement vos schémas de traitement de l'arrêt cardiaque. Nous ne pouvons pas continuer avec cette ambiguïté. Et rappelez-vous que quelqu'un qui est mort a une gravité nulle sur le plan médical, un temps infini, et que son traitement est le deuil. Donc, la première action que vous devez faire, c'est votre propre deuil. Si vous ne faites pas votre propre deuil, vous ne pourrez pas faire le deuil des autres. Je vous conseille de lire un super livre américain qui vient de sortir sur la mythologie du CPR. Superbe, je ne sais pas le nom de cet auteur, qui détruit toutes les idées que nous avons sur la réanimation cardio-pulmonaire. Je m'excuse d'être sorti de mon sujet, mais je voulais vous le dire parce que les biais méthodologiques sont très fréquents dans la médecine d'urgence. Et ailleurs aussi, dans la médecine d'urgence, c'est ce qui m'intéresse. Donc, excusez-moi de cette déviation. Merci.